Merci d'être avec nous. Nous sommes en osmose comme tous les jours et nous allons retrouver aujourd'hui dans le cadre de nos rendez-vous avec la morgue, l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix. Nous allons retrouver un conférencier de l'URSI, l'Université Rose-Croix Internationale. C'est Philippe Laurent et nous allons parler aujourd'hui de méditation. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Tout va bien, vous m'entendez?
Moi, je vous entends bien, voilà. Ça a l'air de fonctionner.
Tout est parfait. Alors vous êtes conférencier à l'URSI, vous êtes psychologue clinicien également, et vous utilisez la méditation dans votre façon de pratiquer, c'est ça, pour aider vos patients?
Oui, si vous voulez, la méditation en soi, c'est pas une thérapie, mais par contre, c'est un outil qui a des tas d'avantages, des tas de vertus, je dirais. Dans la mesure où la thérapie dite de pleine conscience, que j'utilise surtout avec mes patients, a pour objectif de faire prendre conscience, comme son nom l'indique, d'un certain nombre de pensées, d'émotions. Et la méditation de pleine conscience, ça permet de faire ce retour sur soi. C'est pour ça que c'est un outil qu'on utilise, pas toujours, mais avec beaucoup de patients et avec des bons résultats en général.
Alors, on va peut-être commencer par des définitions. Qu'est-ce qu'on appelle une méditation de pleine conscience? Pourquoi pleine conscience? Parce qu'on est éveillé? Parce que...
Oui, si vous voulez, c'est un peu un terme consacré maintenant, la pleine conscience. En fait, c'est relativement simple, hein. La méditation de pleine conscience, c'est une méditation qui consiste à observer, pour de bon, à l'intérieur de soi, tous les mouvements de la pensée et des émotions. Donc il s'agit d'être vraiment concentré, attentif à tout ce qui se passe dans notre monde intérieur, on pourrait dire, en laissant de côté tout ce qui est discours intérieur, discours mental. La plupart du temps dans notre vie quotidienne, on a des sortes de dialogues intérieurs, et puis souvent nos pensées, elles nous obsèdent. Donc on va les suivre, on va se rendre compte au bout d'un moment qu'on était perdu dans des pensées, en ayant quitté en fait la réalité de l'instant. Ce qui compte en pleine conscience, c'est d'être dans cette réalité et non pas dans notre bruit mental, dans ce discours intérieur qui nous éloigne finalement de l'expérience réelle.
D'accord, donc c'est assez compliqué parce que c'est vrai que même quand on est tranquille, on peut pas empêcher des pensées parasites comme ça d'arriver. On est en train de se dire, tiens, je vais penser à quelque chose de calme et puis poum, il y a une facture, un problème financier ou professionnel qui traverse l'esprit et qui nous bouffe complètement, qui parasite complètement la pensée.
Exactement, c'est exactement ça le problème en fait. Si vous voulez, les pensées, on peut les comparer à des wagons dans un train qui circulent. Et la plupart du temps, en fait, on a le réflexe de grimper à l'intérieur du train, de rentrer dans ses pensées et de suivre ce chemin, de suivre cette voie ferrée dans ce train de pensée. Donc là, il s'agit au contraire de descendre du train, en quelque sorte, et d'observer tranquillement le train en train de passer. Vous voyez ? Donc ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, c'est très, 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 très concret pour ceux qui viennent dites. Et c'est une expérience qui consiste à être l'observateur de soi-même. D'accord. En fait, c'est quelque chose qu'on expérimente assez rapidement, après quelques jours peut-être de pratique. C'est cette position qu'on appelle parfois la position du soi-observateur. Voilà. C'est cette position fixe, stable, à partir de laquelle on peut tout voir, tout observer, y compris ses propres pensées.
D'accord. On a du mal à l'imaginer hein, quand on pratique pas. C'est-à-dire que je suis en train de penser, mettons, à des problèmes de gestion de la maison, par exemple, et j'arriverai à m'extraire et à me regarder moi-même en train de penser à ces soucis-là.
C'est un peu ça ? Oui, alors, à la
condition... C'est pas évident.
Et non, c'est pas évident, bien sûr. Ça demande un minimum de pratique, mais... Je dirais que la condition sine qua non, c'est pour s'extraire de ses pensées, c'est d'être justement focalisé, attentif à ce qui se passe au niveau quasiment organique, corporel, si vous voulez. Parce que quand on est vraiment attentif à ce qui se passe dans son corps, on ne peut pas en même temps générer de la pensée. Ou alors, si on génère de la pensée, c'est une pensée automatique qu'on peut tenir à distance. Si vous voulez, l'idée, ce n'est pas de s'empêcher de penser. Ça, ce n'est pas possible. Le cerveau, c'est un peu une machine à penser. Donc, on peut pas lui interdire de penser. Ça serait aussi inefficace que demander à son cœur d'arrêter de battre, si vous voulez. Mmh. Donc, voilà, le cerveau, il va faire de la pensée, mais l'essentiel pour le méditant, c'est d'être dans cette position d'observateur en étant concentré, focalisé sur ses propres ressentis. On utilise par exemple des techniques de body scan ou de balayage corporel qui consistent à observer ce qui se passe à l'intérieur de ses pieds, de ses jambes, de ses cuisses, etc. On remonte comme ça jusqu'à parcourir l'ensemble de son corps, des pieds jusqu'à la tête. Et en faisant cet exercice-là, on se rend compte qu'il y a tout un monde intérieur, un monde fait de sensations, fait d'une expérience immédiate. Voyez ? Et quand on fait ça, on n'est pas dans le discours, on n'est pas dans le jugement. En tout cas, il faut faire en sorte de ne pas être dans ce jugement ou dans cette comparaison. Il y a un écueil très fréquent qui est, et ça on le rencontre beaucoup chez les débutants en méditation, après quelques essais, ils disent très souvent « Ah bah écoutez, moi j'y arrive pas, j'ai essayé, mais décidément j'ai plein de pensées, je suis envahi, et puis ça marche pas, et puis en gros c'est pas fait pour moi.
» C'est exactement ce que j'allais vous dire. On entend voilà, souvent ça, et même moi personnellement, c'est vrai que des fois je me dis c'est difficile quoi.
Et du coup, on arrête cette expérience, on arrête cette pratique, ce qui est vraiment, vraiment dommage, parce que là, on est dans le jugement, si vous voulez. Ce qu'on dit généralement, c'est que quand on commence la méditation, il ne faut pas avoir trop d'attentes, en fait, par rapport à cette pratique. Si on se dit, par exemple, voilà, bon, je suis stressé, je suis tendu, ça ne va pas, j'ai des problèmes au boulot, j'ai des problèmes avec ma belle-mère, etc., et qu'on se dit, bah tiens, je vais méditer, comme ça, ça me fera du bien, ça me permettra d'être un peu plus serein. C'est pas une. Je comprends la démarche, si vous voulez, mais c'est pas la meilleure manière de procéder. Pourquoi ? Parce que quand on a des attentes par rapport au résultat de la méditation, on a toutes les chances d'être en fait déçu. Parce que très souvent, on médite et puis bon, bah, il se passe pas grand-chose de particulier. Alors bien sûr, en général, ça détend. Hein. Mais peut-être que le résultat, au bout du compte, c'est qu'on retrouve ses ennuis, ses factures à payer, etc. Donc la meilleure attitude mentale, je dirais, c'est de se défaire de toutes ces attentes, de façon à ne pas être dans le jugement et de ne pas arriver à la conclusion que, bah, décidément, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas.
Alors parlons peu, parlons bien. Pour méditer, est-ce qu'il faut se mettre dans des conditions particulières ou est-ce qu'on peut méditer dans toutes les situations ? Enfin, j'imagine que sur un travail à la chaîne avec le bruit des usines derrière, ça ne doit pas être tout à fait propice, mais il y a peut-être des conditions, on peut peut-être en conduisant, oui. Enfin, je ne sais pas comment...
Je dirais qu'il y a les conditions. Alors les conditions idéales, évidemment, c'est d'être dans un endroit calme, couper surtout le téléphone et toutes les sources de distraction, qui ne manquent pas hein, aujourd'hui, c'est bien connu. Donc on se débranche quoi, complètement. Et puis on fait en sorte de pouvoir se concentrer à cette expérience attentionnelle, finalement. Hein, puisqu'il s'agit bien de ça. Alors, vous dites, quand il y a beaucoup de bruit, c'est pas possible, enfin, c'est compliqué. Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors, d'un autre côté, quand on médite, on doit être dans cette attitude de non-jugement qui fait que finalement, même quand il y a du bruit, des perturbations, eh ben, on puisse aussi s'adapter à cette situation. Alors, ça, c'est dans la théorie, bien sûr. Hein. Dans la réalité, évidemment, s'il y a un marteau-piqueur à côté, on va avoir un peu de mal à méditer. Mais vous voyez, dans l'idée, dans l'absolu, on devrait être capable de méditer en toutes circonstances. Par exemple, moi, j'habite en région parisienne. Pendant longtemps, j'ai pris les transports en commun, le RER, etc., ce qui ne sont pas forcément des endroits très propices à la méditation. Mais malgré tout, on peut arriver, ne serait-ce que peut-être 2 ou 3 minutes, à se mettre dans cet état d'observateur attentif, je dirais.
D'accord. On entend souvent dire justement que pendant une balade en forêt, par exemple, ça fait aussi l'équivalent d'une méditation, si on arrive à être... détendu, réceptif à ce qui se passe autour, les arbres, l'énergie qui se dégage. Vous êtes d'accord avec ce genre d'affirmation ?
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. La balade en forêt, par exemple, c'est un bon moyen de faire une expérience de pleine conscience. Alors, est-ce que c'est vraiment de la méditation ou pas ? La limite, peu importe, hein, peu importe la définition. L'essentiel, c'est dans ces circonstances... d'être complètement branché avec l'expérience, d'être complètement dans le présent. Donc de voir cette forêt, par exemple, dont je parle. Très souvent, on traverse une forêt sans même s'en rendre compte. Hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu ce que j'appelle le syndrome du lundi, vous savez. Quelquefois, on demande à quelqu'un comment ça va, il vous répond bah, comme un lundi.
Ah bon?
Vous voyez? Comme un lundi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, en fait? Ça ne veut pas rien dire. Hein, parce que ce lundi-là, ce n'est pas celui de la semaine dernière et ce n'est pas celui de la semaine prochaine. Mmh. Donc, il s'agit de redécouvrir la réalité des choses, d'être en phase et d'avoir les yeux ouverts, si vous voulez. Donc, que ce soit une balade en forêt ou un trajet en bus ou en métro, il s'agit d'être complètement conscient de ce qui se passe dans l'immédiat.
Mmh, c'est sûr que si on traverse
la forêt, c'est un petit peu plus inspirant, c'est évident. Mmh. Mais à la limite, on devrait être capable de faire ça à peu près partout et en toutes circonstances. Être vraiment, vraiment là et pas ailleurs, perdu dans ses pensées, perdu dans cette espèce de bavardage mental qui est une plaie. Hein. C'est vraiment une plaie
des temps modernes, surtout. Bah, surtout si on traverse la forêt quand on est en colère, par exemple. Et donc, on a toutes ces pensées, ces émotions qui nous empêchent complètement de profiter de la nature.
Exactement, oui, complètement. Ouais. La colère, la frustration, il m'a dit ça, j'aurais dû lui dire que je suis pas content, et si, et donc, voilà. Etc. Donc oui, c'est ça, ce sont des pensées qui bouclent en permanence finalement, et qui nous empêchent d'être branchés sur le réel. Donc la forêt, pour prendre cet exemple, c'est une invitation à être totalement présent à la couleur du feuillage, au rayon de soleil qui traverse les arbres, etc. Et d'être complètement dans cette expérience. Vous savez, il y a l'expérience que tout le monde a fait, hein, être devant un feu de bois dans un état un peu de rêverie, ou d'être devant un coucher de soleil et d'être simplement un peu bête devant ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire sans penser, sans se dire bah tiens, c'est un joli coucher de soleil, ou vous voyez, c'est être totalement immergé dans l'expérience. Alors même si ça dure 30 secondes ou une minute, c'est gagné. C'est gagné, c'est ça la pleine conscience. C'est pas plus compliqué en fin de compte. Hein.
Ben, quand vous en parlez, ça a l'air très simple. Mais quand on s'y met soi-même, des fois on se dit bon, ben, comment je commence ? Il y a des techniques, une position, je sais pas. Alors dans certains cas, on dit il faut avoir les yeux fermés, les yeux ouverts, un point fixe. Il y a des petites techniques comme ça qui nous permettent d'entrer en méditation plus facilement.
Oui, alors là, c'est le chapitre de la technique, effectivement, qui est en fait extrêmement simple. En général, ce qu'on préconise, c'est de s'asseoir confortablement, pas dans un fauteuil, plutôt dans une chaise, ou sur même un tabouret, hein, ou un coussin aussi, un coussin de méditation, c'est parfait, avec le dos bien droit, la tête dans le prolongement du dos, également droite. Pourquoi droite ? Parce que quand on est un petit peu avachi, on finit par avoir mal en cours de pratique, souvent. Ou alors on s'endort, ce qui n'est pas non plus le but. Et puis, quand on est dans cette position un petit peu hiératique, comme on dit parfois, un peu comme le roi sur son trône, hein, entre guillemets, effectivement, en général, on ferme les yeux. C'est pas absolument obligatoire, mais en général, c'est quand même souhaitable. On ferme les yeux et puis on se cale souvent sur sa respiration, par exemple. Ça, c'est le cas de la méditation qu'on appelle Vipassana, parfois, qui est à la base de la méditation de pleine conscience.
C'est-à-dire, on écoute sa respiration
observer. Voilà. On l'observe. Hein. Quand je dis observer, effectivement, ça peut être écouter, ça peut être ressentir, ça peut être un picotement, une odeur ou autre chose, peu importe.
Ça permet de vider sa pensée, déjà. Quand on se concentre sur quelque chose, on pense moins à d'autres choses. Et sinon, il y a des mots, des choses qu'on doit dire,
ça dépend un peu de votre contexte culturel, éventuellement religieux, philosophique. Hein. Effectivement, il y a des pratiquants qui utilisent les mantras, ces fameux sons que l'on répète comme ça, et qui ont un peu pour objectif, entre autres, hein, de vider la tête, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le mental discursif, on n'est plus dans le discours intérieur, on est simplement dans l'observation de ce son, de ces vibrations particulières, effectivement. Ça peut être une pratique intéressante. Vous pouvez faire une petite prière si vous êtes croyant, par exemple. Vous pouvez vous constituer une sorte de petit rituel avec un bâton d'encens, une bougie, ou que sais-je, hein, bien sûr. Ça, c'est un petit peu les conditions extérieures, si vous voulez. hein, sachant que quelles que soient ces conditions, l'objectif est toujours le même en fait. Hein. C'est arriver à cette cessation des pensées discursives, des pensées conscientes en fait.
D'accord. Alors, une fois qu'on a réussi, qu'on y arrive, qu'est-ce que peut nous apporter la méditation? On a mis comme titre méditer pour mieux être. Donc un mieux être, j'imagine.
C'est tout un programme, effectivement. Mieux être, bah, c'est être totalement. Hein. Alors concrètement, bon, il y a quand même eu des études hein, qui ont été faites depuis au moins une vingtaine d'années, en tout cas aux États-Unis, sur les effets concrets de la méditation. On sait que la méditation de pleine conscience permet de réguler un certain nombre d'hormones dans le corps. Ça augmente la sérotonine, qui est un petit peu la molécule du bonheur, hein, entre guillemets. Et oui, ça permet du coup de réduire le stress, l'anxiété. C'est excellent aussi pour la prévention des rechutes dépressives. Hein, il faut savoir que quand on a déjà vécu un épisode dépressif, malheureusement, on a toutes les chances que ça recommence. Et dans ce cas-là, ce que proposent les médecins souvent, bah, c'est d'avoir recours aux antidépresseurs. Bon, bah, là, la méditation a montré qu'elle est aussi efficace que les antidépresseurs, contre la rechute dépressive, par exemple.
D'accord.
T'as vu?
J'imagine que ça limite aussi les réactions liées au stress, peut-être. Ça
Oui, c'est
calme
ça.
cette partie-là du stress.
Ah ouais. Alors le stress, si vous voulez, c'est un petit peu une réaction physiologique qui n'est pas spécifique. Donc on peut avoir des stress de toute nature, liés à l'environnement, liés à ses propres pensées, ses propres problématiques personnelles. On parle plutôt de prévention de l'anxiété hein, en psychologie quand on parle de la méditation. Mais oui, effectivement, ça régule le stress à travers ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Hein, c'est-à-dire qu'on peut passer plus facilement du stress à la relaxation quand on a une habitude méditative. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que la méditation ne va pas supprimer le stress, si vous voulez, mais elle va vous permettre de mieux réguler. Vous voyez ce passage de moments de stress et de moments de détente sans rester dans ce qu'on appelle un stress chronique, qui est très dommageable pour la santé.
J'imagine qu'avec l'expérience, ça doit pouvoir donner aussi un détachement, c'est-à-dire qu'on peut être, on est peut-être moins hyper réactif quand quelque chose arrive, on arrive peut-être à se détacher, à le voir un petit peu plus de haut ou de loin.
Exactement,
Oui?
tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est moins dans la réactivité, notamment émotionnelle ou mentale, on est plus dans l'expérience vécue. Pour prendre une image, c'est un petit peu comme une tempête émotionnelle. Donc imaginez la mer tempétueuse, bah, le méditant, il va pas supprimer la tempête, hein. Simplement, le méditant, il va s'extraire de l'eau, il va même monter peut-être dans le phare au bord de l'eau, et puis il va pouvoir observer ça. Hein? Il va voir le mouvement des vagues, mais il ne va plus être prisonnier de ces vagues.
D'accord, donc s'extraire un petit peu, ça lui évite quand même de subir les chocs ou les remous de
Oui.
cette tempête.
Exactement. Et puis s'adapter, ça c'est vraiment un mot fondamental. Être ouvert à l'expérience, s'adapter à l'inconnu. On vit quand même une époque un peu particulière, vous l'avez remarqué, hein, où il y a beaucoup de changements, il y a des choses un peu angoissantes, anxiogènes. Et tout le challenge, là, moi, je trouve, hein, en ce moment, c'est d'être capable de s'adapter à des conditions nouvelles. Et pour ça, la méditation, c'est quand même un outil vraiment intéressant, je trouve.
On peut méditer justement pour réfléchir à quelque chose, se dire, tiens, bah, il y a trop d'angoisse ou de colère dans ma ville en ce moment, comment je m'en extrais? Ça peut faire aussi, on peut utiliser des thématiques comme ça quand on médite?
Oui, alors je dirais que la méditation, elle permet de compléter la réflexion. La réflexion, elle est nécessaire, très souvent, hein, bien sûr, pour résoudre des problèmes. Mais il y a un moment, si vous voulez, après une intense réflexion, il y a un moment où la réflexion n'est plus productive. Il y a un moment donné où il faut arrêter de réfléchir sur son problème et se mettre dans un état méditatif. Et là, il va se passer quelque chose d'assez mystérieux. Un travail méditatif, comme on parle du travail des rêves, si vous voulez, dans la nuit, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le cerveau va continuer en fait pas à réfléchir, mais à travailler sur le problème et fournir des réponses nouvelles, originales. Et c'est quelque chose que, par exemple, des grands scientifiques ont rapporté, hein, par exemple Einstein ou d'autres. Ils ont dit, mais finalement, moi, j'ai beaucoup réfléchi à un problème, puis c'est quand j'ai cessé d'y réfléchir que la solution est arrivée. Donc, en fait, oui, effectivement, la méditation permet d'aller plus loin que la réflexion, elle la complète, en quelque sorte.
D'accord. On voit des fois des ateliers méditation sur Internet, hein, des rendez-vous, comment on appelle ça, oui, des réunions, enfin payantes, hein, avec un directeur de méditation, je sais pas comment on appelle ça, un animateur dans tous les cas.
Oui.
Et souvent, on voit dans l'énoncé, ça va vous changer la vie, vous allez vivre une expérience extraordinaire, votre pensée va devenir créative, vous allez pouvoir créer le monde que vous voulez. Vous voyez ça comment, vous? On peut en rire, est-ce qu'il y a une vérité là-dedans?
Écoutez, moi je pense qu'il y a deux choses. Les groupes de méditation, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que l'expérience montre qu'en général, les gens ont du mal à pratiquer tout seul chez eux. Et le fait de participer à un groupe, ça permet de s'auto-stimuler, de s'encourager. On se dit, bah voilà, c'est mercredi, c'est mon cours de méditation. Je vais méditer avec mes amis et voilà, ça permet en fait d'entretenir la pratique en quelque sorte. Donc ça, c'est très bien, hein. D'ailleurs, je participe aussi à des groupes de méditation, hein, assez régulièrement. Ça permet et puis de vivre une expérience un petit peu différente. L'expérience de méditation collective, c'est pas exactement la même chose que l'expérience de méditation individuelle, je trouve. En général, c'est ce que les gens en rapportent. Alors après. Là, je vous vois un petit peu ironique, mais effectivement.
Là, c'est que les promesses sont un peu énormes, des fois, quand même.
parfois, c'est vrai. Encore une fois, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas avoir trop d'attentes par rapport à la méditation, sachant que de toute façon, vous allez en retirer un mieux-être. C'est quasiment garanti. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'est-ce que ça va être. On ne peut pas dire quel va être le résultat que vous allez obtenir. Pour certains, ça sera effectivement une prise de recul, pour d'autres, une meilleure gestion du stress, pour d'autres, autre chose encore. Donc, on ne peut pas faire enseigner une méditation en disant, voilà, c'est ça que vous allez obtenir. D'autre part, si vous voulez, les cours de méditation, ça n'a pas tellement de sens, parce que, en fait, la technique méditative est extrêmement simple. Donc, on ne va pas vous apprendre pendant des heures et des heures comment méditer. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'échanger, effectivement, d'échanger avec l'instructeur, dire bah là, j'ai eu des difficultés, ou je me demande si je m'y prends bien, ou je partage une expérience. Donc c'est quand même intéressant, hein, ces expériences en groupe.
Mais puis ça fixe un rendez-vous régulier aussi, des fois.
Parce que, oui, c'est ça.
Parce qu'on peut se dire dans la vie, bah tiens, je vais méditer, puis après on oublie, on n'a pas le temps. Alors que là, on dit, tiens, si je vais tous les mercredis à 17h, ben, je sais que tous les mercredis à 17h, je vais avoir cette porte vers la méditation.
On se dit toujours, j'ai pas le temps.
Oui.
Ça, c'est vraiment
là, au moins,
ça fixe.
Au moins, ça fixe.
Alors qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de temps. Une méditation, ça peut être 10 minutes par jour. C'est bien le diable si vous ne trouvez pas 10 minutes dans votre emploi du temps.
Surtout,
mais par contre, c'est vrai que, ouais, par contre, on n'a pas la disponibilité d'esprit. En général, on se dit, oh, j'ai deux choses plus urgentes à faire. J'ai ma facture à payer, j'ai le petit à amener à l'école, etc.
Mais souvent, on dit en plus, j'ai pas le temps, puis on passe 45 minutes d'affilée sur Twitter, Facebook ou Instagram. Donc c'est du temps qu'on pourrait passer. c'est du temps qu'on pourrait passer peut-être à autre chose. Mais quand même, quand on dit ça peut vous changer ou changer votre vie, vous êtes d'accord avec cette affirmation? Ça peut quand même modifier, enfin apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un, quoi.
Ah ben c'est clair. Mmh. Écoutez, moi personnellement, hein, ça a complètement changé ma vie. Donc d'accord. Oui, c'est possible.
Bon, c'est possible.
Il y a un avant et un après. Il y a un avant la pratique méditative et un après, ou plutôt un pendant, parce qu'en fait, on ne s'arrête jamais. Hein. Quand on a goûté tous les bienfaits de la méditation, il n'y a aucune raison de s'arrêter, en fait. Hein.
Est-ce qu'il y a une part spirituelle dans la méditation? Est-ce qu'on se connecte à quelque chose? On peut se connecter à quelque chose, quelle que soit cette chose, hein?
Oui, écoutez, bien sûr, là c'est une part un petit peu intime, hein, à laquelle on touche à travers ça. Moi je pense qu'effectivement, y a quand même beaucoup de gens qui rapportent à travers leur méditation un sentiment d'unité, de fusion avec le tout, de proximité aussi avec les gens, une sorte d'ouverture aux autres. Après, si vous êtes dans une démarche philosophique, spirituelle ou religieuse, eh ben, cette pratique méditative, elle va s'inscrire dans votre système de croyance ou de représentation, si vous préférez. Et du coup, oui, il va y avoir des expériences qui peuvent être qualifiées de spirituelles, ça c'est évident. C'est des choses très belles.
Oui, ça peut être intéressant aussi. C'est un autre aspect de la spiritualité, de l'aborder comme ça, ou peut-être amener des réponses ou des éclaircissements sur des questions qu'on se pose, sur sa spiritualité, ou le grand tout, comme vous
Oui,
dites.
le grand tout, ce sont des questions qui n'ont pas d'ailleurs de réponse définitive et applicable à tous, hein. C'est d'ailleurs ce qui fait la beauté de ce genre de questions. Hein, pourquoi est-ce que je suis ici? Dieu existe-t-il? Pourquoi la souffrance? Etc. etc. Il n'y a pas vraiment de réponse définitive et valable pour tous. Par contre, à travers une pratique méditative, bah, vous allez pouvoir, je pense, trouver des réponses au moins pour vous. Et c'est ça qui compte finalement.
Une dernière question pour nos auditeurs. Est-ce que vous avez des pistes, des lectures, des vidéos, des choses, des outils qu'on peut utiliser, voir, lire, pour aborder comme ça la méditation, si ça nous attire?
Oui, alors écoutez, maintenant, moi je constate autour de moi, dans ma région, qu'il y a énormément de groupes de méditation qui se créent. En cherchant sur Internet, ça serait bien le diable que vous ne trouviez pas un groupe près de chez vous. Donc, pour ceux qui aiment le travail en groupe, ça peut être une bonne approche. Après, en termes de lecture, bah, vous avez des gens très connus comme Christophe André, qui font un superbe travail, je trouve, de vulgarisation. Donc Christophe André, lui, fait beaucoup de livres et puis des vidéos aussi, hein, que vous pouvez trouver sur YouTube ou ailleurs. Vous avez après des auteurs qui sont vraiment des références dans le domaine, comme Jon Kabat-Zinn, par exemple. Ça s'écrit Kabat, Kabat, Zinn, Zinn. Donc c'est un Américain, mais qui a été traduit en français. Vous avez aussi des gens qui travaillent avec des enfants, par exemple, comme Hélène Snéel, qui a écrit un bouquin qui est devenu en fait un best-seller qui s'appelle Sage et attentif comme une grenouille. Ça aussi, c'est une approche intéressante, comment méditer avec des enfants. Hein. Voilà, bon, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais ce sont des pistes que vous pouvez utiliser.
D'accord. Ah ouais, c'est des petites pistes pour les auditeurs, ça peut quand même aider. Et puis, on aime bien lire des fois avant de se lancer.
Oui, ça donne des bases, bien sûr, c'est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est que quand vous en parlez, ça a l'air d'une simplicité enfantine. Et quand on essaye d'y aller, on se dit, mon Dieu, c'est compliqué quand même. Alors qu'il s'agit en fait de, de vider un peu ses pensées, d'arriver à se calmer, quoi.
Non, c'est effectivement, c'est non, non, c'est pas compliqué du tout. C'est pas compliqué du tout. C'est peut-être la chose la plus simple qui soit, mais c'est peut-être précisément parce que c'est tellement simple que ça nous paraît si éloigné de nous. En fait, on vit quand même dans un monde très complexe et puis très cérébralisé, je dirais. Donc, on veut absolument tout expliquer, mettre des mots sur tout, trouver des causes et des effets à tout. Alors que la méditation, c'est mettre de côté tout ça et être véritablement dans l'instant, dans l'expérience. Donc, effectivement, vous avez raison, c'est simple. C'est la chose la plus simple, mais par contre, c'est comme toute espèce d'art, on va dire. Parce que pour moi, c'est un art. Il faut pratiquer, il faut s'astreindre à une certaine discipline, ne pas renoncer parce que on croit en tout, échouer. Hein, en fait, on échoue. Il n'y a pas vraiment d'échec en méditation, mais on croit parfois échouer. Donc, c'est un art de vivre. Hein, c'est une pratique quotidienne, régulière. C'est pas compliqué du tout. Ça demande simplement un peu d'effort, un peu d'effort conscient, mais comme pour toute discipline, je dirais.
Bien, Philippe Laurent, je vous remercie pour tous ces éclaircissements sur la méditation. Ben, j'invite nos auditeurs à essayer, hein. Je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la chose.
Exactement, il vaut mieux pratiquer qu'écouter.
D'accord, bah écoutez-nous quand même un petit peu avant, puis allez pratiquer après. On
Voilà.
peut se lancer tout seul de toute façon, essayer comme ça
Ah,
petit à petit.
complètement, oui, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'instructeurs, il n'y a pas besoin de groupe, comme je disais tout à l'heure.
Il n'y a pas de
On
risque.
peut très bien commencer tout seul. Non, il n'y a pas de risque. Non, non, vraiment pas. Ou alors vraiment dans des cas extrêmes de maladies mentales ou autres, mais ce sont des cas très très particuliers.
Merci beaucoup et peut-être à
Je vous
bientôt.
en prie.
Au revoir.
À bientôt. Au revoir.